Brève digression sur la causalité et la nature de l'explication sociologique. Nous avons évoqué au chapitre 2 diverses causes immédiates de l'emploi inutile. Les chefs, dont le prestige se mesure au nombre de leurs assistants ou subordonnés administratifs, l'étrange dynamique de la bureaucratie d'entreprise, les modes de gestion calamiteux ou encore les défaillances de communication. Ce sont des éléments importants pour comprendre le phénomène global, mais ils ne l'expliquent pas vraiment. Il nous faut encore répondre à d'autres questions. Pourquoi des structures organisationnelles aussi défectueuses ont-elles plus de chances de surgir en 2015 que, disons, en 1915 ou en 1955? Est-ce la culture des organisations qui a changé, ou quelque chose de plus profond? Peut-être un changement dans nos perceptions mêmes du travail? Nous voici confrontés à un problème classique en sciences sociales, les niveaux de causalité. Dans le monde réel, à tout événement donné, il existe un certain nombre de causes qu'il est possible de classer en différentes catégories. Mettons que je tombe dans une bouche d'égout. On peut attribuer cela à ma distraction. Maintenant, si l'on découvre que, dans ma ville, le nombre de personnes tombées dans des bouches d'égout par distraction est brusquement monté en flèche, on doit chercher une explication d'un autre ordre. Essayer de comprendre pourquoi tout le monde est soudainement devenu si distrait dans cette ville, ou, plus plausible, pourquoi on y trouve tant de bouches d'égout ouvertes. J'ai volontairement choisi un exemple farfelu. Mais examinons-en un autre plus sérieux. Au chapitre précédent, Mina soulignait que si bien des sans-abri ont une histoire marquée par des addictions, à l'alcool, à la drogue, ou par diverses formes de fragilité personnelle, beaucoup d'autres sont simplement des adolescents abandonnés par leurs parents, d'anciens combattants souffrant de stress post-traumatique, ou encore des femmes qui fuient un mari violent. Parmi les gens qui dorment dans la rue ou dans des centres d'hébergement d'urgence, prenez quelqu'un au hasard et regardez son parcours de vie. Vous y verrez sans doute converger plusieurs de ces facteurs, généralement combinés à une bonne dose de pure malchance. Par conséquent, on ne devrait jamais pouvoir dire qu'un SDF se retrouve dans cette situation parce qu'il est dépravé. Et quand bien même un sans-abri donné serait effectivement dépravé, quoi que l'on entende par là, cela n'expliquerait en rien les fluctuations du taux de sans-abri dans le temps, ni d'un pays à l'autre à l'instant T. C'est là un point crucial. Prenons le problème dans l'autre sens. À toutes les époques, il s'est trouvé des moralistes pour affirmer que les pauvres doivent leurs conditions à leur comportement immoral. Après tout, nous rappelle-t-on souvent, on voit des gens nés pauvres devenir riches grâce à leur courage, à leur détermination et à leur esprit d'initiative. Cela veut bien dire que d'autres restent pauvres, faute d'avoir fait un effort qu'ils auraient pu faire. Cet argument paraît convaincant quand on ne regarde que les cas individuels. Il l'est beaucoup moins au vu des statistiques comparatives qui soulignent les variations spectaculaires du taux d'ascension sociale dans le temps. Les Américains pauvres étaient-ils juste moins dynamiques dans les années 1930 que dans les décennies précédentes, ou cela avait-il à voir avec la Grande Dépression? Il est encore plus difficile de s'en tenir à cette approche exclusivement morale quand on considère les différences criantes de taux de mobilité sociale entre les pays. Un enfant né en Suède de parents pauvres a beaucoup plus de chances de s'enrichir qu'un enfant né dans des conditions similaires aux États-Unis. Est-ce à dire que les Suédois ont globalement plus de courage et plus d'esprit d'initiative que les Américains? Je doute que la plupart des moralistes conservateurs contemporains soient prêts à soutenir une telle opinion. Il nous faut donc chercher un autre type d'explication. Peut-être l'accès à l'éducation ou bien le fait que les plus pauvres des enfants suédois sont loin de l'être autant que les plus pauvres des enfants américains. Cela ne signifie pas que les qualités personnelles n'entrent pas en ligne de compte, puisque certains enfants suédois pauvres réussissent et d'autres non. Mais ce sont des problèmes et des niveaux d'analyse distincts. Il en va de même dans un jeu. Tenter de déterminer les raisons pour lesquelles un joueur particulier a gagné une partie, ce n'est pas la même chose que s'intéresser au degré de difficulté du jeu. ni que se demander pourquoi les gens y jouent d'ailleurs. C'est là un troisième type de question. De fait, quand on étudie des changements sociaux de grande envergure, il convient d'envisager non pas deux, mais trois niveaux d'explication. Dans ce cas précis, ce serait 1. Les motifs particuliers pour lesquels un individu donné se retrouve à la rue. 2. Les forces économiques et sociales plus profondes qui conduisent à l'accroissement de la population de sans-abri, augmentation des loyers, mutation des structures familiales, etc. 3. Les raisons pour lesquelles personne n'intervient. On peut qualifier ce dernier niveau de politico-culturel. C'est le plus facile à omettre, car il renvoie souvent à ce que les gens ne font pas. Je me souviens très bien de la première fois où, à Madagascar, j'ai discuté avec des amis du phénomène des sans-abri en Amérique. Ils étaient abasourdis d'apprendre que des gens dormaient dans la rue, dans le pays le plus riche et le plus puissant du monde. « Mais les Américains n'ont pas honte ?» m'a demandé l'un d'eux. « Ils sont tellement riches. Ça ne leur pose pas de problème de savoir que le monde entier va y voir un déshonneur national ?» Il m'a bien fallu reconnaître que c'était une bonne question. Pourquoi les Américains, eux, ne voient-ils pas comme un déshonneur national le fait que des gens dorment dehors ? À coup sûr, ça aurait été le cas à d'autres moments de leur histoire. Si l'on avait vu tant de gens à la rue dans les grandes villes au cours des années 1820 ou même des années 1940, il y aurait eu un tollé général et des mesures auraient été prises. Oh, peut-être pas des mesures très reluisantes. À certaines périodes, on aurait raflé les vagabonds pour les mettre au travail dans des hospices. À d'autres, on aurait construit des logements sociaux, probablement. Mais au moins, on n'aurait pas laissé ces gens dépérir sur leurs cartons au beau milieu des trottoirs. Depuis les années 1980, les Américains tendent à réagir à cette situation non pas en s'insurgeant contre les conditions sociales qui la créent, mais en recourant à des explications de premier niveau, c'est-à-dire en décrétant que le problème des sans-abri est une conséquence inévitable de la faiblesse humaine. Les humains sont des êtres capricieux. Ils l'ont toujours été. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour y remédier. Voilà pourquoi j'insiste sur la dimension à la fois politique et culturelle de ce troisième niveau d'explication. Il repose sur nos présupposés de base concernant nos semblables, ce que l'on peut attendre d'eux et ce qu'ils sont en droit d'exiger les uns des autres. En retour, c'est en vertu de ces présupposés que nous décidons de ce qui constitue ou non un problème politique. Non pas que les attitudes populaires soient l'unique facteur en la matière. La preuve, les autorités politiques font souvent fi de la volonté générale. Régulièrement, des sondages rappellent qu'environ 2/3 des Américains sont favorables à un système de soins nationalisé. Pourtant, aucun grand parti n'a jamais soutenu cette idée aux États-Unis. De même, les enquêtes montrent que la majorité des Britanniques souhaitent la réintroduction de la peine de mort. Or, aucune formation politique importante ne la défend. Je ne tiens pas compte du parti UKIP. Il n'en reste pas moins que la culture ambiante d'un pays influe sur ce que ses habitants choisissent de considérer comme normal. Dans le cas des jobs à la con, trois questions peuvent se poser. 1. Sur le plan individuel, pourquoi les gens acceptent-ils de prendre des jobs à la con et de les supporter ? 2. Sur le plan économique et social, quelles sont les forces structurelles qui ont conduit à la prolifération des jobs à la con ? 3. Sur le plan politico-culturel, pourquoi la bullshitisation de l'économie n'est-elle pas vue comme un problème social ? Et pourquoi personne n'a-t-il entrepris d'y remédier ? La confusion entourant les débats sur les questions sociales en général tient en grande partie au fait que ces trois niveaux d'explication sont considérés comme des alternatives et non comme des facteurs agissant simultanément. Par exemple, des contradicteurs m'objectent parfois que je fais fausse route en tentant d'expliquer le phénomène des jobs à la con en termes politiques, puisque ces jobs existeraient pour une seule raison : les salariés ont besoin de l'argent qu'ils leur procurent. comme si l'idée ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Dans cette optique, examiner les motivations subjectives des personnes qui acceptent ces boulots serait totalement déconnecté de la question de savoir pourquoi, pour commencer, tant de gens se retrouvent acculés à de telles extrémités pour gagner leur vie. C'est encore pire quand on en arrive au niveau politico-culturel. Un accord tacite semble désormais régner dans la bonne société pour considérer qu'on ne peut attribuer de motivation aux acteurs qu'en se plaçant sur le plan individuel. Si vous avez le malheur de suggérer que les puissants dissimulent certains de leurs agissements ou même s'engagent dans certaines actions publiques pour des raisons autres que celles qu'ils avancent, vous serez immédiatement accusé de propager une théorie conspirationniste paranoïaque. Même chose si vous laissez entendre qu'une fraction des politiciens défenseurs de l'ordre ou des responsables de services sociaux rechignent peut-être à s'attaquer aux causes réelles du problème des sans-abri parce qu'ils estiment que cela ne sert pas leurs intérêts. À tous les coups, on prétendra que vous ne dites pas autre chose que « le problème des sans-abri est le résultat d'une machination orchestrée par une cabale secrète » ou que « le système bancaire est dirigé par des vipères ». Diverses remarques sur le rôle du gouvernement dans la création et la pérennisation des jobs à la con. Toutes ces attitudes s'observent à propos du sujet qui nous intéresse. Dans mon article de 2013 sur les jobs à la con, j'avançais l'idée suivante. Notre régime de travail actuel n'a pas été sciemment construit tel que nous le connaissons. Mais l'une des raisons expliquant son maintien est que les détenteurs du pouvoir s'accommodent fort bien de ses effets politiques. Or, rappelez-vous, dès la publication de mon papier, quantité de voix s'était élevée pour s'écrier que c'était un argument insensé. Voilà pourquoi il me paraît important de clarifier les choses ici. La construction de faits sociaux, cela existe. Par exemple, le régime d'emploi factice qui caractérisait l'URSS ou la Chine communiste était créé d'en haut par une politique gouvernementale explicite de plein emploi. C'est une vérité communément admise. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il y avait un type au Kremlin ou au Palais du Peuple qui publiait une directive stipulant « Par la présente, j'ordonne à tous les agents de l'État d'inventer des postes inutiles jusqu'à ce que le chômage soit éradiqué. » Tout simplement parce que ce n'était pas nécessaire. La politique parlait d'elle-même. Tant que vous ne dites pas clairement « Gardez le plein emploi en ligne de mire, mais en vous assurant que les postes créés se conforment à tel et tel critère », et tant que vous ne précisez pas que cette exigence fera l'objet d'un contrôle rigoureux, vous n'avez pas à vous inquiéter du résultat. Les agents locaux feront ce qu'ils ont à faire. Dans les régimes capitalistes, bien qu'aucune directive semblable n'ait été édictée, à ma connaissance, la politique économique générale, du moins depuis la Seconde Guerre mondiale, est fondée sur l'idéal du plein emploi. Pourtant, tout laisse à penser que la majorité des décideurs ne souhaitent pas vraiment que cet idéal se réalise, car il créerait une trop forte pression à la hausse sur les salaires. Apparemment, Marx avait raison d'affirmer que le capitalisme ne peut fonctionner tel qu'il est censé le faire en théorie que grâce à une armée de réserves de chômeurs. Je demande parfois à mes étudiants, quand nous abordons la théorie marxiste, à combien s'élevait le taux de chômage dans la Grèce antique ou la Chine médiévale? La réponse est bien entendu zéro. La situation que nous connaissons, dans laquelle une large proportion de la population souhaite travailler sans pouvoir le faire, semble propre à ce que Marx appelait le mode de production capitaliste. Mais le fait qu'il s'agisse d'un trait structurel du système, de même que la dette publique, ne paraît pas empêcher qu'on le traite comme un problème à résoudre. Il n'empêche, le slogan « plus d'emplois » est le seul sur lequel gauche et droite parviennent toujours à tomber d'accord. Les divergences portent uniquement sur les moyens pour y parvenir. Les banderoles brandies dans les défilés syndicaux réclament des emplois, mais jamais des emplois utiles. On considère implicitement qu'ils le seront, souvent bien sûr, il n'en sera rien. De la même façon, quand la droite clame qu'il faut voter des réductions d'impôts pour donner plus de ressources aux créateurs d'emplois, il n'est jamais précisé si ces emplois serviront à quoi que ce soit. On suppose que ce sera le cas, pour la simple raison qu'ils auront été engendrés par le marché. Dans un tel climat, la pression politique qui s'exerce sur les gestionnaires de l'économie rappelle étrangement les directives venues du Kremlin, sauf que sa source est plus diffuse et qu'elle touche majoritairement le secteur privé. Enfin, il y a le niveau des politiques publiques explicites. Peut-être qu'un responsable soviétique produisant un document programmatique n'évalue pas l'ensemble des conséquences possibles de son acte, pas plus qu'un élu américain appelant à créer des emplois. Cependant, dès lors qu'une situation existe, quand bien même elle serait un effet collatéral involontaire, on peut attendre des décideurs qu'ils en mesurent toute la portée politique quand ils envisagent d'engager des actions correctives, s'il y en a. Est-ce à dire que la classe politique perpétue délibérément la généralisation de l'emploi inutile? Si cela vous paraît une suggestion audacieuse, voire digne d'une théorie complotiste, lisez plutôt cet extrait d'une interview de Barack Obama de 2006. Il y expose quelques-unes des raisons qui l'ont incité, par la suite, à conserver un système d'assurance maladie privé et concurrentiel malgré les préférences exprimées par les électeurs. Je ne raisonne pas en termes idéologiques et je ne l'ai jamais fait, a déclaré Obama en poursuivant sur le thème de la santé. Ceux qui défendent le système à payeur unique nous disent « Regardez tout l'argent qu'on gagnerait en supprimant les assureurs et la paperasserie. » Or, cela représente 1, 2, peut-être 3 millions de postes, des gens qui travaillent à Blue Cross Blue Shield, Kaiser ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Où on les emploie? J'invite le lecteur à méditer sur ce passage qui s'apparente à un véritable aveu. Que dit Barack Obama? Il reconnaît l'inutilité de millions de jobs chez des assureurs privés comme Kaiser ou Blue Cross. Il admet même qu'un système de soins publics serait plus efficace que le système existant régi par le marché, car il éliminerait des monceaux de paperasse superflus ainsi que les efforts redondants de dizaines d'entreprises privées concurrentes. Mais il souligne aussi qu'un tel basculement n'est pas souhaitable, justement pour ce motif. Maintenons le système actuel, puisqu'il est inefficace. Mieux vaut conserver des millions de jobs de bureau totalement vains que de se creuser la tête pour trouver une autre occupation à tous ces gras de papier. En d'autres termes, celui qui allait bientôt devenir l'homme le plus puissant du monde déclarait publiquement que la mesure qui serait plus tard regardée comme emblématique de son mandat était largement dictée par l'impératif de préserver des jobs à la con. Qu'une culture politique où le mot d'ordre est « création d'emplois » produise de tels résultats ne devrait pas nous choquer, bien que ce soit le cas sans qu'on sache pourquoi. Pour autant, cela n'explique pas les dynamiques économiques et sociales qui donnent naissance aux jobs à la con. Nous allons les examiner maintenant, après quoi nous reviendrons brièvement au rôle du gouvernement.